Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Je voudrais lire avec vous d'abord dans le prophète Ésaïe, au chapitre 24. Je vais d'abord demander au Seigneur de me donner la voix qu'il faut pour vous apporter ce message du Seigneur, que les choses soient bien dites et dites clairement. Seigneur, nous te bénissons, nous rendons grâce pour ton amour et je te demande ta grâce afin de pouvoir parler avec force, avec clarté. Seigneur, que ton esprit me soutienne et me renouvelle, Seigneur, et donne-moi les capacités aussi physiques, Seigneur. Amen. Donc, prenons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 24, à partir du verset 19 jusqu'à 23. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées règnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. La lecture des prophètes est une bonne chose, même si nous ne comprenons pas tout. Certains passages concernent Israël, d'autres le monde. Certaines prophéties se sont accomplies, d'autres doivent encore s'accomplir. Et bien que certaines données nous échappent, notre esprit s'élève et nous découvrons ce que Dieu voit et ce que Dieu décide. Oui, Dieu règne. Dieu juge et va punir les hommes qui s'opposent à lui. Lisons encore dans le prophète Ésaïe au chapitre 2, du verset 11 à 22. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? Quelle vision avons-nous de Dieu ? Les hommes se font des idoles à leur image, selon leurs pensées. Et même parmi les personnes qui se disent chrétiennes, quelle vision de Dieu et de Jésus ont-elles ? Un homme cultivateur dont les champs de lin avaient été touchés par la tempête récemment me disait : je suis croyant, catholique, mais parfois on se demande ce que fait le petit Jésus là-haut. Quelle image de Jésus ? Quelle vision de Dieu ? Le petit Jésus. De la vision que nous avons de Dieu vont dépendre nos actions, notre façon de vivre. Dieu règne. Notre Dieu est un grand Dieu, puissant. Dans le psaume 47, verset 9, nous lisons « Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. » Dans le psaume 59, verset 14, « Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus dit à ses apôtres, en Matthieu 28, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus qui est au ciel, ce n'est plus le petit Jésus. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 3, nous dit « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Quelle vision de Dieu, quelle vision de Jésus-Christ avons-nous ? Les apôtres avaient déjà eu un aperçu de la puissance de Jésus quand ils l'ont vu commander à la mer et au vent. Ils ont compris que Jésus était plus qu'un prophète, mais qu'il avait autorité sur la nature. La nature n'est pas indépendante de la volonté de Dieu. Les événements qui se passent sur terre sont tous dépendants de la volonté de Dieu qui règne, qui a autorité sur la nature qu'il a créée. Notre vision et compréhension de Dieu, de Jésus, détermine notre appréciation des choses et des événements qui nous entourent. Quelle vision Dieu a-t-il de l'homme ? Dieu regarde l'homme. Dans le psaume 33, verset 13, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Dieu voit chacun des hommes de la terre, les millions d'hommes qu'il y a sur la terre, Dieu les voit chacun. Et Dieu est attentif à chacune de leurs actions. Psaume 102. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe sur la terre. Il voit, il entend ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans la détresse, et il va les délivrer. Quelle est l'appréciation que Dieu a sur l'homme ? Psaume 94, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Les pensées de l'homme sont vaines. Et l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 3, verset 20, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Dans le verset précédent, c'était les pensées de l'homme en général. Mais même là, ici, il est marqué les pensées des sages, de ceux qui se croient sages sur la terre, des hommes qui pensent être sages. Mais Dieu sait que leurs pensées sont vaines. L'homme pense être maître de son destin. Mais est-ce le cas? Proverbe 16, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et dans le psaume 33, 10, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. La lecture de la parole de Dieu et la lecture des prophètes nous aident à comprendre comment Dieu dirige l'histoire des hommes. Dieu réussit à combiner la réalisation de son plan et de sa volonté avec la liberté de choix qu'il laisse à l'homme. Dieu laisse l'homme choisir. Dieu laisse l'homme décider. Mais finalement, ce sera la volonté de Dieu qui se réalisera. C'est Dieu qui règne. Et Jésus-Christ est l'Éternel. Il règne, tout pouvoir lui a été donné. Donc, tout ce que nous voyons sur la terre, tous les événements, nous savons qu'il y a quelqu'un au-dessus qui voit, qui dirige et qui va faire se réaliser sa volonté. Dieu sauve et il juge en même temps. Dieu juge les hommes par l'évangile, qui est le plan de salut pour l'homme. Ces versets que nous connaissons tous par cœur dans Jean au chapitre 3, versets 16 à 21, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Dieu effectue un jugement par l'Évangile. Il propose le salut, mais ceux qui le refusent sont condamnés. Il est donc important, capital, de ne pas mépriser le salut qui nous est offert. Car l'apôtre qui a écrit l'Épître aux Hébreux dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le salut ne doit pas être négligé. Le jugement de Dieu commence avec la prédication de l'Évangile. Dieu sépare ceux qui se confient en lui et ceux qui le rejettent. Jésus lui-même dit, on le voit dans l'Évangile de Luc au chapitre 12, verset 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Tout au long des siècles, la prédication de l'Évangile a créé des divisions dans les familles, dans les peuples. Dieu effectue déjà un jugement par l'Évangile. Il y a ceux qui l'acceptent, qui acceptent le salut, et il y a ceux qui le refusent malheureusement. Ceux qui prêchent l'Évangile sont comme un parfum de vie ou de mort, nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 17. « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. » Ce n'est pas notre volonté d'apporter la mort, ni la volonté de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais il faut rappeler la parole de Dieu qui est véritable. Jésus le dit en Marc 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Il est grandement nécessaire de nous rappeler régulièrement que notre Dieu est aussi un Dieu dévorant, un feu dévorant, qui dit dans l'Épître aux Hébreux, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla encore la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est la grâce qui nous sauve, mais il nous faut rester dans cette grâce. Tite, l'épître de Paul à Tite nous dit au chapitre 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle est pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. L'apôtre Pierre nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Il le dit dans sa première épître au chapitre 4. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc le jugement est là pour tous. Et ceux qui croient, bien sûr, échappent à ce jugement, ceux qui restent dans la foi, ceux qui restent dans la grâce de Dieu. Dieu éprouve chacun et, en quelque sorte, teste notre foi. Mais Dieu va aussi juger l'homme, l'humanité, qui détruit sa création et ses créatures. Chaque jour, nous constatons les effets néfastes et dévastateurs de l'activité humaine. Nous sommes maintenant témoins de ces dégâts. Nous en sommes malheureusement acteurs, sans en avoir eu la volonté, mais l'humanité pécheresse qui s'est révoltée contre son Créateur arrive maintenant dans une impasse. On ne voit pas comment s'en sortir. Quelle méthode utiliser pour lutter contre la pollution, contre les dégâts que l'homme a faits, comment s'en sortir? Par les catastrophes climatiques, nous voyons que le jugement de Dieu commence à se manifester. Dieu manifeste son jugement. Comme depuis une cinquantaine d'années, les choses s'enchaînent de plus en plus vite. Ne pensons pas que cela va durer encore des siècles. Apocalypse 11, verset 15, le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et dans Matthieu, au chapitre 24, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Frères et sœurs, durant ces vacances, il nous a été rappelé que Dieu séparera le bon grain de l'ivraie, que Dieu demandera des comptes de la gestion des dons qu'il nous a faits. Oui, le salut est gratuit. Et parce qu'il est gratuit, nous n'avons aucune excuse de le refuser. Mais n'oublions pas que notre Dieu va juger le monde. Il faut nous désolidariser du monde et de ses mauvaises actions. Notre seul maître est Jésus, le Christ. Vivons dans sa présence. Vivons dans le sérieux de la révélation qui nous a été donnée, mais pas dans la crainte. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez en moi, dit Jésus. Dans l'évangile de Jean, nous lisons au chapitre 14. Terminons avec deux versets, deux passages qui se trouvent dans le chapitre 26 du prophète Ésaïe, justement, versets 3 et 4. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et au verset 12, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Béni soit le Seigneur.